Donc, je me suis habillé en cow-boy parce qu'en fait, on est un peu comme eux. Ils sont connus pour la conquête de l'Ouest. J'enlève les chapeaux parce que ça me fatigue quand même. C'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Donc, vous avez eu l'image de ce qu'est un cow-boy. Vous en avez une partie qui est encore là. Ils sont connus pour la conquête de l'Ouest. Et tout le monde connaît la conquête de l'Ouest, ces fameux chariots qui traversent tous les États-Unis et qui vont avancer comme ça pour gagner ces terrains. Mais qui sont ces cow-boys? Qui sont ces caravanes de chariots mis en cercle pour se protéger des Indiens? Ça aussi, vous connaissez le fameux cercle des Indiens, les cow-boys, c'est un peu ça. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Nous sommes des cow-boys. Et il y a l'ennemi qui sont les Indiens. J'ai même ma femme qui m'a dit que nous allions déménager, que nous allions partir, donc il faut qu'on commence à préparer notre chariot. Et ça va être un sacré chariot. Donc les cow-boys, les Indiens sont ennemis à l'époque, hein, c'était des ennemis. Et cette image type, je pourrais dire que c'est l'image de l'Église. Souvent, l'Église, elle est un peu comme ces chariots qui sont mis en cercle, qui se protègent des Indiens. Et l'Église est protectrice. On aime bien être ensemble. On aime bien être dans une communauté, de retrouver nos frères, nos sœurs. C'est vrai que le soir, quand ils devaient bivouaquer, ça devait être intéressant. Les feux de camp, les barbecues, tout ce que vous voulez, devait être un moment agréable de partage. Mais le problème, c'est que ils ne passaient qu'une soirée et après ils reprenaient la route. L'Église a fait quelque chose de différent, c'est qu'elle est bien en elle-même et qu'elle ne veut plus avancer pour conquérir le pays. Beaucoup d'Églises se sont arrêtées en route, on a fait une partie du chemin et puis un jour ils ont trouvé un bivouac qui était très agréable et ils sont restés sur place. L'Église ressemble trop à cette image de bivouac enfermée sur elle-même, une église protectrice et qui n'a plus du tout envie de conquérir le pays. Pourtant, on l'a chanté, hein. Je crois que c'est le premier chant, hein. Conquérir le pays. Et c'est un peu le drame que nous avons, c'est que nous sommes arrêtés et nous sommes restés ensemble. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Napoléon. Une troupe qui n'avance pas, c'est lui qui a dit ça, est une troupe qui recule. Si nous restons enfermés, si nous restons reclus sur nous-mêmes, on va reculer et on finira par disparaître. Je vais passer à une autre guerre, c'est celle de 1914-1918. 14-18, les troupes se sont retranchées dans des tranchées. Se sont carrément enterrées, ils se sont enterrés. Ce sont presque enterrés vivants. Hein. Il y a des tranchées où les gens, les bombes ont recouvert les tranchées. On retrouve encore des gens enterrés aujourd'hui dans ces tranchées qui ont existé. En 40, oh, ils ont trouvé une solution pour supprimer les tranchées parce que ça a été un désastre. Ils ont fait la ligne Maginot. Ils ne passeront pas. Quelle bêtise! Le général de Gaulle, dès la fin de la guerre 14, avait bien compris que les premiers chars qui existaient à l'époque avaient cette vision d'une armée, d'une guerre éclair et d'avancée. Seulement, nos dirigeants, qui étaient des vieux ronds de cuir, eh bien, n'ont pas vu cela. Et l'histoire nous a fait voir que, eh bien, un certain Hitler, lui, a motorisé son armée, a fait d'une armée efficace et motorisée. Et c'est cette armée motorisée qui a permis de. Alors, ce qui est terrible, parce que quand même en 14-18, les Français disaient non, ils ne passeront pas par les Ardennes. En 40, quand on a fait la ligne Maginot, on ne l'a pas continuée jusque dans les Ardennes, parce qu'ils disent ils ne passeront pas par les Ardennes. Et ils sont quand même passés par les Ardennes. C'est une bêtise de penser que en étant retranché, on peut gagner une guerre. Une guerre ne se gagne que si on avance, si on a une vision d'aller de l'avant. L'histoire des Fortins, c'était quelque chose de terrible. Moi, j'ai écouté plusieurs émissions parce que à chaque fois, on apprend des choses. Donc, dans cette guerre 40, bien sûr, ils sont passés de chaque côté de la ligne Maginot. Avec les avions, ils sont passés par-dessus. Et ceux qui étaient dans la ligne Maginot, entre autres mon oncle, eh ben, il n'a pu que lever les mains pour sortir parce que ils étaient dépassés. Mais j'ai vu une émission où c'est encore pire. Il y avait des Fortins qui allaient jusqu'à près de Paris, les Fortins. Et ces Fortins, ils ont été abandonnés parce que quand l'armée a commencé à envahir, ils ont retiré tous les canons qui étaient dans ces Fortins pour les amener du côté des Ardennes. Il était trop tard. Et il y a un pauvre soldat, des pauvres soldats, je pourrais dire, allemands, avec fusil et baïonnette, on l'envoie pour attaquer ce fortin. Et j'imagine comment il devait avoir peur. Quand vous arrivez devant un fortin, vous avez une petite porte, de chaque côté vous avez des meurtrières. Il se dit, dès qu'ils vont tirer avec des mitrailleuses, je vais être fauché comme une marguerite. Et il avance, il a peur, il avance. Et en fait, ces fortins ont été abandonnés. C'est terrible parce que ces fortins, eh bien, il a fallu les reprendre avec des centaines et des centaines d'hommes par la suite. Des erreurs, il y en a. Et nous devons éviter de regarder le passé pour que nous ne fassions pas ces mêmes histoires. Nous, on avait encore des chevaux qui tiraient des canons, alors que les Allemands, ils avaient une motorisation 2 fois plus vite. C'était une guerre éclair. Tout va plus vite. Et nous sommes, et vous êtes conscients que notre société, tout va plus vite. Revenons aux cow-boys. Quels sont les cow-boys? Qu'est-ce que c'était ces gens? C'était des gens de l'ancien monde, d'ici. C'était des gens de la France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'un peu partout. Dans une période où eh bien, il y avait de l'insécurité, il y avait des guerres civiles, il y avait des guerres de religion, il y avait la famine, il y avait toutes ces choses. Et on leur proposait d'aller dans un pays où on leur donnerait des terres riches, cultivables et gratuites. Qui n'aurait pas choisi cela? Et beaucoup se sont embarqués sur ces bateaux. Alors imaginez-vous des gens qui sont dans la campagne, là. À l'époque, on ne voyageait pas, on n'allait pas en vacances, on n'allait pas au Club Med. Certains n'ont sûrement pas vu ce que c'était que la mer. Et parmi tous ces gens, eh bien, ils se sont retrouvés sur des bateaux. C'était leur première épreuve. Combien ont dû être malades? Le mal de mer. Combien ont dû souffrir de dire, mais dans quoi je me suis engagé? Dans quelle galère je suis? Et puis en plus, quand ils sont arrivés, eh bien, ils se sont fait recevoir par les Indiens avec des flèches. Tout était à leur désavantage. Bon, ils ont pris des chariots, ils ont dû s'équiper un peu de pistolets, mais je pense que ça devait être des vieilles pétoires, parce qu'ils ne sont pas arrivés avec beaucoup d'argent, et ils n'avaient pas beaucoup d'équipement, et en plus, ce n'étaient pas des soldats. Ils se sont retrouvés face à des Indiens qui, eux, avaient l'habitude de chevaucher avec l'arc et de tirer et de tuer des animaux. Ils étaient vraiment défavorisés. Ils étaient défavorisés parce que l'ennemi était plus puissant, plus nombreux, mieux armé. Ils n'avaient que, comme je disais, de vieilles pétoires, de vieilles armes. Et je peux vous dire que quand vous devez tirer sur une cible qui bouge, c'est beaucoup plus difficile que de chevaucher et de viser quelqu'un qui est assis tranquillement avec son fusil. Je pense que 9 fois sur 10, ce sont les cow-boys qui ont perdu ces batailles. Beaucoup de bivouacs ont été rasés, ravagés, brûlés, puisqu'en plus il y avait des flèches enflammées. C'est encore un exemple qu'il ne faut pas rester sur place, qu'il faut avancer. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon parce que Dieu nous a donné des armes contre l'ennemi, contre les flèches. Dans Éphésiens 6, versets 13 et 16, qui veut le lire? Cherchez un peu dans la Bible. L'important, c'est la Bible. L'important, nous le verrons tout au long de cette journée, c'est la Bible. On nous demande de tenir ferme. Personne. Éphésiens, le premier qui trouve le lit, fort, à haute voix. Amen. Il nous demande de prendre toutes les armes et il est important de prendre les armes pour se défendre de l'ennemi qui a ses fameuses flèches enflammées. Dans Éphésiens, il nous l'a dit, tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Nous sommes en guerre, vous le savez. Notre président l'a dit, nous sommes en guerre et nous devons nous défendre. Dans Psaume 7, versets 13 et 14. On va voir un peu tout ce que sont. Psaume 7. Non, je dois avoir une erreur, attendez. Psaume 7, 13 et 14, je suis. Il nous était. Alors j'ai pris une mauvaise référence parce qu'il nous est parlé de flèches brûlantes. Waouh. Donc j'ai fait une référence différente. Alors ne cherchez pas. Je vais en prendre une qui est bonne, je vais vous dire. C'est 14. Oui, rend ses flèches brûlantes. L'ennemi est vraiment méchant, est vraiment mauvais. Ce n'est pas uniquement des flèches qui vous percent, mais ce sont des flèches qui sont brûlantes. Elles vous percent, mais en plus, elles vous brûlent. C'est vraiment sadique. C'est vraiment méchant. Dans Jérémie aussi, il nous parle que la langue est un trait enflammé. Vous savez, des fois, vous recevez aussi des flèches comme ça. Qui n'a jamais reçu ce genre de flèche? Levez la main. Je pense que tous ont eu des paroles qui leur sont tombées dessus et qui leur ont fait du mal. Dans Genèse 15, 1, ça c'est quelque chose d'intéressant que je vais vous lire. 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision, en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Dieu est le bouclier d'Abraham. Dieu est un bouclier. Je suis ton bouclier. Dans 2 Samuel 22, 3, mon bouclier, ma force. C'est ce que nous chantons souvent. Vous le trouvez dans 2 Samuel 2, 3. Mon bouclier, ma force. Dans 2 Samuel, toujours 22, les versets 31, 33, mon... Allez-y, cherchez. Il est bon de chercher dans la parole, parce que la parole est un bouclier. C'est dans la parole que nous pouvons nous servir en tant que bouclier. Vous verrez tout à l'heure, je reviendrai. De Samuel 22, 31-33. Le verset 3, c'est mon bouclier, ma force. Et le verset 31-33... Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent. Hein. Oui? Voilà. Pour tous ceux qui le cherchent, moi j'ai dans ma version, tous ceux qui cherchent l'Éternel. L'Éternel est un bouclier. Il n'est pas uniquement un bouclier pour Abraham. Il n'est pas un bouclier pour le pasteur Vincent. Il n'est pas un bouclier pour mon épouse. Il est un bouclier pour chacun d'entre nous. L'Éternel est un bouclier. Nous devons nous protéger des traits enflammés du malin. Il y a une partie qui est de notre responsabilité, mais il y a une partie qui est du Seigneur. Souvenez-vous quand Satan est venu pour Job. Ah, t'as vu Job, comment c'est, il est bien. Bon, pas forcément, vu tout ce que tu lui donnes. Hein. Il a des propriétés, il a de la richesse, il a des vignes, il a tout. Je comprends qu'il t'aime. Supprime tout. Bon, Dieu lui dit, ok, fais comme tu veux, mais ne touche pas à... Ouais, dites un peu là. Il ne touche pas à sa vie. Dieu a mis un bouclier, il a dit, tu peux faire tout ce que tu veux jusqu'à un point. Et dans vos vies, il est la même chose. Dieu permet peut-être à l'ennemi de vous toucher, mais jusqu'à un point. Il ne permet pas qu'il aille au-delà d'eux. Des épreuves, il nous est dit, toute épreuve nous est survenue qui était humaine, et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il est important de voir ça. Quelles sont les armes ? Tenir ferme contre toutes ces flèches. Nous devons manier le bouclier. Savez-vous manier le bouclier ? D'abord, savez-vous, est-ce que vous savez que vous avez un bouclier ? Je suppose que vous connaissez toutes les armes, on les a lues tout à l'heure, le casque du salut, la cuirasse, les chaussures. Les chaussures, ça, c'est pas sûr. Parce que les chaussures, c'est le zèle, c'est justement se déplacer. C'est d'aller vers l'autre, c'est d'être témoin de Jésus-Christ. Le zèle, c'est ce qui nous manque le plus. On aime bien la soirée au coin du feu, avec tous les petits chariots autour. On n'aime pas aller de l'avant. Mais on a besoin. Mon bouclier, ma force. Je vais prendre des exemples. Comment devons-nous manier le bouclier ? Dans Exode... Oui, je peux le dire. Je n'ai même pas besoin de chercher le verset. Quand on vous dit que vous êtes moche, qu'est-ce que vous répondez ? Il y a des gens qui vous ont dit que vous étiez moche. Tu es trop petite, hein, ma femme. Elle arrive en vacances avec ses cousines. Oh, mais qu'est-ce que tu es petite ? Réponse dans Exode. Je suis une créature merveilleuse. On le trouve aussi dans le psaume 139, 14. Je suis une créature merveilleuse. Combien sont de personnes qui sont mal dans leur peau ? Combien de personnes sont mal dans leur peau ? Se trouvent trop grandes, trop petites, trop grosses, trop maigres, trop ceci, trop cela. Et même la couleur des fois, les cheveux, la peau, tout va mal. En tant que chrétiens, nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a créés et il nous aime. Et il a son regard vers nous qui est totalement différent de celui qu'on peut regarder dans un miroir. Dieu nous aime. Dans sans talent. Ah, t'as aucun talent, tu ne vaux rien, tu ne réussiras rien. Philippiens 4, 19. Qui va le lire ? Ça, ce sont des boucliers. Tu es moche. Ah, je suis une créature merveilleuse. Dieu m'aime tel que je suis. Paf. Je brise cette parole que tu as contre moi. Philippiens 4, 19. Mais je vais y aller, moi. Non. Sans talent, Dieu pourvoira tous mes besoins. Il vous donnera, il vous équipera. D'abord, la Bible nous dit que quand vous recevez le Seigneur, vous recevez des dons. Les dons, c'est des choses qu'on doit manifester. On peut avoir un don, mais si on ne le pratique pas, si on ne l'utilise pas, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'a dit Vincent tout à l'heure ? Si j'ai mon fils dans sa chambre, je l'entends jouer de la guitare. Même des gens qui sont doués de la musique, Eh bien, continue de jouer de la musique. Et il y a des gens qui passent des heures dans la musique. Des heures de piano, des heures de guitare, des heures de ceci et de cela. Vous pouvez être doué, jouer magnifiquement, mais si vous n'en travaillez pas votre instrument, tôt ou tard, vous allez décliner et puis ça n'ira plus. Je n'y arrive pas. Tiens, psaume 37, 4. Psaume 37, 4. Alors, je vais vous le dire parce que ça, on va avancer un peu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Alors, heureusement qu'il y a le premier rang qui est là. Hein. Je suis inquiet. Philippiens 4, 6. Alors ça, je peux vous le dire, notez-le, regardez, cherchez-le et entourez-le. Je suis inquiet. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Les gens inquiets, punaise. Vous en avez tous les jours. Dès que vous discutez avec quelqu'un, ben moi j'ai peur de ce Covid, j'ai peur de ceci. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer dans cette société? Est-ce que demain je vais avoir du boulot? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que de se faire du souci, ça peut rajouter un cheveu à ta tête? Non, même pas. Ne vous souciez de rien. Dieu prend soin de vous. Il vous aime d'un amour infini. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Votre bouclier, c'est celui-là. C'est celui-là, votre bouclier. C'est la parole de Dieu. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous pouvez baser sur la parole de Dieu et vous pourrez éteindre les flèches de l'ennemi. Il y en a un qui a su. Ben c'est Jésus. Jésus, il a utilisé un bouclier. Dès qu'il a été tenté, dès qu'il a été dans le désert, dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est parti dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu le tenter. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et nous devons faire de même. Nous ne sommes pas plus grands que le maître, nous sommes que disciples. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et nous devons connaître la parole de Dieu pour pouvoir dire quand nous sommes attaqués, quand nous sommes encerclés par ces Indiens qui veulent nous tirer des flèches de tous côtés. Il est écrit. Plus vous la connaisserez, plus vous serez dans la victoire. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on est près de Dieu, plus on est dans sa présence. Et si nous sommes dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit, parce que sinon, si vous lisez la Bible, ça peut se lire comme un livre, ça n'a aucune valeur. Mais quand vous lisez la Bible, vous avez la révélation, parce que le Saint-Esprit vous fait connaître les profondeurs de Dieu. Mais nous avons besoin de cette connaissance. Dans Jean 4, 21, j'espère. Ah, ça c'est pour l'église d'aujourd'hui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Waouh! Est-ce que ce n'était pas une parole prophétique? Est-ce que c'était une parole prophétique pour les Juifs? Est-ce que c'était une parole prophétique concernant le temple qui allait avoir le jour où Christ allait être crucifié, le voile déchiré. Donc ça voulait dire que dans ce temple, Dieu n'y était plus. ou de ce temple qui va être détruit par la suite. Puisque de toute façon, si Dieu n'y est pas, quel intérêt reste-t-il à ce temple, à un tas de pierres qui va être rasé? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez et vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Adorateurs en esprit et en vérité. La vraie Église, c'est ce qu'a dit Vincent tout à l'heure encore, c'est l'adorateur en esprit et en vérité. Adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas le local. Excusez-moi. Ce n'est pas le local qui fait l'Église. Vous savez, depuis des années, j'ai fait l'école du dimanche pendant pas mal d'années, et avec tous les enfants, j'en étais arrivé à dire, dessine-moi une église. Et bien sûr, il dessine la petite église, petite chapelle, avec des petits vitraux, tout ce qu'il faut. Et je leur dis, non, ça, c'est pas l'église. Ça, c'est un bâtiment. L'église, et après, je leur expliquais. Et après, les enfants étaient capables de dessiner. Quand je disais, dessine-moi l'église, ils dessinaient les papas, maman, des petits bonhommes, et ainsi de suite. C'est vous l'église. C'est vous les pierres vivantes, c'est vous la vraie Église. Et c'est pour ça que Jésus, ça fait 2000 ans qu'on est à côté de la plaque, ça fait 2000 ans où Jésus, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez. Ce n'est pas dans un temple qu'on vient adorer. Alors le temple, ils l'ont détruit en 50 et quelques, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que derrière, même nous, protestants, nous avons construit des temples. Et ce n'est pas ça l'Église. Et c'est là où nous arrivons dans la partie importante de ce message, l'Église du 21e siècle. L'Église du 21e siècle, André Malraux a dit quoi? Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. L'Église, c'est quelque chose qui doit être entièrement spirituel, basé sur le Saint-Esprit. Le reste ne pourra pas tenir. Le reste ne tiendra plus. L'Église est une entité vivante qui est maintenue par Dieu dans sa main, mais dont le Saint-Esprit agit en chacun de nous. Et je pense que ces temps troublés dans lesquels nous sommes, ces temps de guerre où nous sommes, où l'ennemi veut détruire l'Église, au contraire, nous devons nous forcer, nous fortifier dans le Saint-Esprit, parce que c'est ça la vraie Église. Nous devons nous avancer, continuer d'avancer. Mais comme l'a dit Vincent, et je trouve ça très bien ce qu'il fait de lundi soir, c'est d'avoir une vision renouvelée de ce qu'est l'Église. Que ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure, mais c'est un ensemble des chrétiens. Peut-être que demain matin, effectivement, au-delà de 10 personnes, on ne pourra plus se réunir et l'Église va se fermer de nouveau. Mais non. Ça, c'est les chariots. Ça, c'est mauvais. Mais ceux qui ont réussi, ce sont ceux qui sont allés jusqu'au bout, ceux qui ont conquis le pays. Et nous devons conquérir le pays. Nous devons continuer d'avancer. Mais notre avancée est différente. Vous savez, je vais terminer parce que je n'ai pas besoin de faire un message. Vous avez très bien compris que les Indiens et les cow-boys, si nous restons enfermés sur nous-mêmes, nous allons périr. Mais je prendrai une réplique qui n'est pas dans la Bible, excusez-moi. C'est dans Independence Day, le président, nous n'entrerons pas dans la nuit sans nous battre. Nous n'entrerons pas dans la nuit. Et la nuit est là, la nuit approche, les ténèbres approchent, les ténèbres se manifestent. Le Covid est une manifestation des principautés des ténèbres pour détruire notre économie. Alors j'en parle pas parce que Lionel pourra nous le faire beaucoup mieux, détailler davantage, mais nous partons dans la nuit. Nous avançons. Peut-être que nous sommes déjà dans les 3 ans et demi avant que le Seigneur vienne chercher son Église. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète à vous dire ça aujourd'hui. Mais l'Église doit avoir cette vision qu'elle doit changer, qu'elle doit évoluer, qu'elle doit aller vers une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, eh bien, nous devons la chercher dans le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire, qui va nous donner la victoire, qui va nous conduire parce que le Père a décidé de bâtir son Église et rien ne prévaudra contre elle. Mais il faut savoir aussi que nombreuses églises vont peut-être disparaître. D'autres structures vont apparaître, que je ne sais pas du tout dans quel sens. Mais l'église doit bouger. L'église ne doit pas rester statique en attendant. Vous avez vu les deux guerres, la guerre de 14, la guerre de 40. À chaque fois, on était en retard. Je ne veux pas que l'église soit en retard. C'est pour ça que je prêche ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai prêché sur la guerre 14 et la guerre 40. On était en retard d'une guerre. L'église ne peut pas se permettre d'être en retard. L'église doit être en avance. Nous sommes la tête et non la queue. C'est nous qui devons... Demain, on va venir frapper à vos portes. Demain, les gens vont être perdus, vont être inquiets, vont pas savoir ce qui se passe, ne vont pas savoir vers qui se tourner. Parce que toutes les structures qui étaient en place vont s'écrouler petit à petit. Vers qui vont-ils se tourner, si ce n'est que vers vous? Parce que vous avez les paroles de la vie. Vous êtes la vie. Les gens vont voir. Il y a quelque chose en eux qui fait que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin, comme des fois, c'est très rarement mais ça arrive, comment on peut faire pour recevoir Jésus. Mais ça, c'est des choses qui vont se produire. Des gens vont venir vous toucher, vous chercher. Comment se fait-il que dans ce drame, dans ces moments de difficulté, vous êtes en paix? Ça va se voir. Vous allez rayonner de Jésus. Rayonner Jésus. Lisez la parole de Dieu. Priez en esprit. C'est ça le message d'aujourd'hui. Pour que demain, vous ne soyez pas les vierges endormies, mais les vierges bien vivantes. Amen.